Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h06 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes extrêmement nombreux à nous écouter en direct, mais également en podcast. Les deux premières heures sont déjà disponibles. On est toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Et nous parlons dopage depuis 10h ce matin avec Olivier Rabin, le directeur de la médecine de l'AMA, et le professeur Jean-Claude Alvarez. Un rendez-vous à vous donner tout de même à 11h30. Liège, Bastogne-Liège, la dernière classique de Pogacar cette saison et en ce printemps. On en parle aujourd'hui. Quand vous voyez ses performances, est-ce que vous êtes inquiet pour le suspense sur le Tour de France? Mais GG, puis 11h45, on s'en fout pas. Toute l'actualité de ce week-end avec notamment du judo, de la moto et le tournoi des six nations féminins des Français. En grande forme, nous allons en parler. Mais le dernier volet tout de suite de notre dossier dopage, la lutte est-elle vraiment efficace? Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garges. Je le rappelle, l'homme qui innocente certains athlètes, notamment Iga Świątek, Simona Halep ou encore Isaura Tibus.
Est-ce que dans vos carrières respectives, à tous les deux, vous êtes de grands professeurs en toxicologie, vous avez déjà rencontré des sportifs qui sont venus vous dire « Moi, je me suis dopé ». Et est-ce que ça arrive que des athlètes disent qu'ils ont fauté, qu'ils ont triché? Vous, professeur Alvarez, non. Vous en avez déjà rencontré?
Non, moi, non.
Ça n'existe pas.
Ils viennent me voir quand ils veulent prouver qu'ils ne sont pas dopés. Donc non, je ne les vois pas, ceux-là. Par contre, mes analyses, parfois, prouvent qu'ils sont dopés. Quand je fais de l'analyse capillaire et que j'ai des concentrations élevées dans les cheveux, pour moi, il n'y a pas de doute. L'autre jour, j'ai eu 75 picots d'ostarine dans les cheveux. Il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est du dopage. Voilà. Donc, je m'arrête là. Il faut bien comprendre.
Mais vous renvoyez pas le dossier vers l'AMA quand même. Vous êtes pas délateur.
Non, je renvoie le dossier à l'avocat. Il en fait ce qu'il veut. Je suis pas sûr qu'il utilise mes résultats pour vous dire la vérité. Voilà. Mais ça, c'est son problème. Donc voilà. Mais bien entendu que j'ai des cas de positifs dopés. Et là, je m'arrête là. Je suis pas contre le dopage. Et à la limite, ces gens-là, il faut les attraper.
La lutte anti-dopage est-elle vraiment efficace? C'est justement notre question, la question qu'on a tous envie de se poser. Jérôme Pinault.
Oui, moi je vais m'adresser à Monsieur Rabin une nouvelle fois et lui poser la question parce que on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui on parle de contamination de toutes petites doses très infimes de certains produits, de microdoses de certains produits présents. En revanche, on sait qu'il y a un vrai souci avec un sujet. C'est l'autotransfusion, la transfusion sanguine, qui est le dopage du riche, le dopage organisé, le dopage du grand. Je viens d'un sport où on le sait, cette méthode a été utilisée.
On est très suspicieux.
Dans beaucoup de domaines.
La tennis woman. Fais-toi petite en ce moment, on parle mal de vous quand même. Et donc aujourd'hui, le doute, la suspicion est permanente sur les exploits de Pogacar, Vingegaard, Van Der Poel, etc., etc. On sait aussi que parfois, sur certaines vieilles analyses, on peut retrouver des toutes petites infime dose de clambutérol par exemple, mais il y a une grosse suspicion de dopage sanguin. Où en est-on, monsieur Rabin, dans la recherche pour enfin pouvoir prouver et suspendre un athlète qui aurait fait appel à ces méthodes qui sont des méthodes, on peut le dire, de voyous? Il faut que l'on puisse savoir, nous les passionnés, où en est-on sur ce genre de méthodes et quelles sont où en sont les recherches sur les méthodes contre les transfusions sanguines.
Permettez-moi de reprendre la question à la base. Peut-être vous expliquer aussi une chose qui me paraît relativement importante et je pense que ça valide dans le sens qui devrait vous rassurer également. Si la charge de la preuve et la certitude que l'on peut avoir lorsqu'on parle de dopage. Souvent, et c'est pas le professeur Alvarez qui me dira le contraire, la science au quotidien fonctionne avec, faisons simple, une marge d'erreur de 5% à peu près, voire de 1% dans les cas les plus poussés. C'est-à-dire qu'on se laisse 5% ou dans les meilleurs des cas 1% de marge d'erreur. Ce qui, en antidopage, ne s'applique pas, puisque nous, on travaille à une marge d'erreur de 0,01%. Ça veut dire qu'on veut un degré de certitude de 1 sur 10 000 versus 1 sur 20 de se tromper. Donc, on est immédiatement dans un système qui nous met sur les épaules, qui met sur mes épaules et celles de mes collaborateurs et de tous les gens qui travaillent dans l'antidopage, une charge, si vous voulez, scientifique qui est extrême, puisqu'on doit être capable, et c'est ce que nous demande souvent le système antidopage et les juristes qui travaillent dans le système antidopage, d'avoir un niveau de certitude extrêmement élevé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que des méthodes, pour venir à votre question sur les autotransfusions sanguines, est un véritable défi pour nous. Pourquoi? Parce que d'abord, vous prenez le sang d'un individu que vous stockez de façon temporaire ou plus longue avec différentes méthodes, que vous réinjectez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détermine, qu'on distingue entre les cellules d'un individu et ses propres cellules. Donc en soi, c'est un défi. On a trouvé des méthodes, mais qui n'ont pas atteint le degré de certitude qui était nécessaire pour les appliquer en antidopage ou qui parfois nous donnaient des fenêtres de détection trop courtes. Ce qu'on a mis en place dans un premier temps, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le passeport biologique de l'athlète, qui est une méthode indirecte qui peut révéler des retraits sanguins ou des administrations sanguines avec des volumes sanguins qui sont encore relativement importants. On ne parle pas de microtransfusion, on parle plutôt de transfusion d'unités de sang, c'est-à-dire 450 ml de sang ou un peu moins. Maintenant, on a investi énormément, et on n'est pas les seuls, il y a d'autres organisations aussi qui l'ont fait, dans les méthodes de détection. Et aujourd'hui, on a des méthodes extrêmement poussées qui vont chercher la cellule sanguine qui pourrait nous révéler qu'il y a eu transfusion sanguine. Donc on est sur des méthodes extrêmement pointues et ce que l'on cherche à voir aujourd'hui, c'est si ces méthodes vont nous donner le degré de certitude suffisant pour pouvoir les amener dans le contexte antidopage.
Professeur Ravin, le sport le plus montré du doigt, on l'a bien compris, reste le cyclisme en matière de dopage. Pas une victoire de Pogacar ou l'un des fantastiques sans qu'il soit montré du doigt. Relevé de Watts à l'appui, tous ceux qui veulent montrer qu'il est coupable nous montrent ça. Est-ce que les puissances considérables produites par les coureurs vous inquiètent ou vous pensez que cela est normal qu'un Pogacar éclate la concurrence dans la montée du mur de Huy comme il l'a fait cette semaine? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre de choses et est-ce que vous avez des méthodes justement pour essayer de nous rassurer de ce côté-là?
Alors, la science progresse au quotidien et on intègre très régulièrement des nouvelles méthodes. On a même parfois des méthodes de détection de certaines substances qui ne sont pas encore disponibles pour des athlètes ou commercialement disponibles. Donc ça aussi, c'est le travail que l'on fait notamment avec l'industrie pharmaceutique. Ensuite, je pense qu'il faut voir différentes choses. La première, c'est... Oui, il y a des performances qui peuvent parfois poser question. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière ces performances. Aussi, la préparation des athlètes, l'entraînement, l'alimentation. On parle beaucoup de l'utilisation des corps cétoniques, notamment dans le cyclisme, vous le savez très bien. Il y a tout un ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a des substances qui sur lesquelles on travaille beaucoup. Ce sont notamment ce qu'on appelle les agonistes des récepteurs GLP-1, style sémaglutide, l'Ozempic que l'on connaît, et ses petits frères et ses petites sœurs, sur lesquels on travaille beaucoup sur les effets. On a travaillé aussi beaucoup sur le tramadol. Souvenez-vous, le tramadol a été une substance. On a réussi à démontrer au travers...
Enfin, Monsieur Rabin, on ne gagne pas un Tour de France avec le tramadol.
Non, mais ça peut aider quand même, semble-t-il. On a démontré que le tramadol, je vous réfère à la littérature scientifique, peut augmenter la performance.
Non, mais bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a perdu beaucoup de temps sur les corps cétoniques et le tramadol et que ça pouvait être, pour certains, un leurre pour continuer à faire du petit bricolage à côté? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, je ne pense pas qu'on ait perdu temps. Je pense que toutes ces questions se posent. La question m'a été posée à l'AMA sur les corps cétoniques et j'ai toujours une position très claire. Ce ne sont pas des substances qui sont considérées interdites par l'Agence mondiale antidopage. Elles ne sont pas sur la liste. Le tramadol, un certain nombre de questions se sont posées sur le tramadol aussi. On a mené des recherches pour montrer que le tramadol pouvait avoir un effet d'augmentation de la performance et est donc interdit à ce titre. Et on travaille sur nombre de substances.
Le monoxyde de carbone aussi, qui a été récemment montré du doigt.
Monoxyde de carbone, effectivement, qui est interdit dans le cyclisme et pour lequel l'AMA a réfléchi et va probablement sortir sur la nouvelle liste un élément spécifique liée au monoxyde de carbone ou dans son utilisation.
C'est difficile à doser.
Encore quelques questions avec Olivier Rabin. On va devoir le laisser. Juste Olivier Rabin avec nous, hein, directeur sciences et médecine de l'AMA. Moi, juste pour poursuivre sur Tadej Pogacar, est-ce que quand on est l'AMA, et là c'est une question de néophyte total, est-ce que quand on voit les performances de Pogacar ou d'un autre cycliste,
est-ce qu'on envoie des inspecteurs régulièrement?
Est-ce qu'il y a des loupiottes, vous voyez, qui s'allument, quoi, qui disent attention, là on a quelque chose, un peu comme en 2002, vous nous expliquez le cas Armstrong, vous êtes arrivé et puis vous aviez déjà un dossier.
Alors, écoutez, différents éléments. D'abord, oui, les performances exceptionnelles attirent toujours l'attention. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a dopage derrière des performances exceptionnelles. On en a dans différents sports et on ne lève pas forcément les sourcils à chaque fois qu'il y a des performances un peu exceptionnelles. Bien évidemment, ces éléments sont pris en compte à la fois par les gens qui sont responsables des tests antidopage dans le cyclisme, nommément l'ITA, qui a une unité... et des gens qui sont spécialisés dans le cyclisme et qui ciblent les athlètes, donc les cyclistes et à différents niveaux. Il y a aussi un autre élément qu'il faut garder à l'esprit. Je sais que c'est pas forcément le plus agréable, mais il a été parfois extrêmement utile. Et je prendrai comme référence les Jeux Olympiques de Londres, où on a la possibilité de garder des échantillons pendant 10 ans et de faire des analyses rétrospectives. Et une fois qu'on a des méthodes en place, et je mets ce commentaire en parallèle de ce que je disais précédemment, où on a des méthodes aujourd'hui qui sont assez avancées, mais pas encore suffisamment validés pour les appliquer, mais dans les années qui viennent, on peut très bien utiliser ces méthodes sur des échantillons qui sont stockés. Le cyclisme,
c'est vrai,
notamment des sports qui stockent les échantillons.
Mais les coureurs qui se battent contre Tadej Pogacar ou un autre, ça va leur faire une belle jambe dans 10 ans de savoir que ils auraient pu être premiers.
Je te confirme.
Un dernier mot, professeur, concernant le dopage génétique. Là aussi, on se demande si c'est du domaine du fantasme ou est-ce que vraiment des professeurs foldingues sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous avez eu vent de ce genre de choses et est-ce que demain on aura des mutants qui bien exerceront dans le sport. On parle notamment de ces jeux, vous savez, les Unsaid Games que veut promouvoir la famille Trump, où on laisserait faire n'importe quoi à n'importe quel athlète, il n'y aurait aucun contrôle. Donc votre avis à la fois sur le dopage génétique et sur ces jeux un peu particuliers qui risquent d'arriver
bientôt. Exactement, la position de la masse sur ces jeux des dopés, comme on les appelle.
Ben, la réponse était dans votre question, c'est-à-dire est-ce qu'on veut voir des monstres demain concourir à des... sur des jeux quels qu'ils soient. Moi, j'ai l'impression qu'on revient aux jeux du cirque, c'est-à-dire que tout est permis, des jeux du cirque romain, tout est permis pour le divertissement. Or, c'est pas ma philosophie du sport, non plus. Pour revenir au dopage génétique, oui, ça fait 20 ans maintenant qu'on a identifié ce risque. Alors, j'aimerais qu'on se limite au professeur Folding, mais malheureusement, la réalité de ce monde est un peu différente. Vous avez des gens qui se prétendent, je veux dire, experts dans le domaine et qui, dans leur garage, et j'en ai vu dans leur garage ou dans leur cuisine, vous concoctent avec des adénovirus et des séquences génétiques et les injectent un peu à n'importe qui, pas seulement des animaux, ils le font sur des animaux, mais aussi sur des humains. Donc aujourd'hui, le dopage génétique est probablement une menace plus réelle qu'elle ne l'a jamais été. Et on a identifié des produits qui peuvent être inquiétants. On a développé des méthodes qui aujourd'hui sont en place, en partie dans les laboratoires antidopage, et continuent d'être mises en place. Et je pars tout à l'heure pour Londres pour discuter justement de certaines de ces nouvelles méthodes d'analyse génétique que l'on pourrait impliquer et mettre en œuvre dans l'antidopage. Bon, oui. Donc oui, la science avance et le dopage génétique est une menace réelle. J'ai tendance à penser que les bonnes vieilles méthodes d'utiliser des médicaments ou des injections restent encore de mise, mais le dopage génétique est une réalité, en tout cas en devenir.
Si je peux te donner mon avis, je pense qu'il faut vraiment que l'AMA travaille là-dessus. Aujourd'hui, on fait de la thérapie génique à l'hôpital, donc on sait modifier un gène, et on sait très bien qu'en modifiant certains gènes, on va améliorer les performances. Et c'est votre gène, hein, donc vous modifiez vos gènes. Donc, bien entendu, je pense qu'il faut vraiment... C'est là où l'AMA doit travailler scientifiquement et passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour essayer d'être avant Moi, je suis persuadé que c'est déjà en train de... Il y en a, comme vous dites, dans leur garage, qui sont en train de le faire. Hein. Peut-être sur la souris, mais peut-être pas que sur la souris.
Ouais. Et juste pour répondre de façon complète à votre question sur les enhanced games, l'AMA condamne fermement ce type de pratique, non seulement parce que, et je reviens, on sait déjà ce que pourraient des enhanced games. On l'a vu lorsque des programmes comme les programmes en ex-Allemagne de l'Est dopaient de façon quasiment systématique un certain nombre d'athlètes au Turu
d'Abel.
On voit ce que ça donne et on voit ce que ça a donné. Moi, je suis désolé, mais quand on essaye de nous vendre ces enhanced games en disant « Non, non, mais vous inquiétez pas, on va contrôler la santé des athlètes, expliquez-moi comment on peut contrôler la santé d'athlètes qui se dopent avec tout un ensemble de substances, y compris des stéroïdes anabolisants, dont on connaît les effets que des années, voire quelques décennies plus tard. C'est absolument impossible, c'est un leurre. » Donc la position de l'AMA a toujours été très ferme, on condamne absolument ce type d'approche. C'est un retour en arrière, c'est un risque pour la santé des athlètes, ce sera un concours de scientifiques et de pharmacologues ou de dopeurs génétiques, ni plus ni moins.
C'est le chômage technique pour l'AMA.
La négation.
Eh bien, ça fait très.
Ça, peu importe.
Vous seriez sur la paille, professeur Alvarez.
Je fais du judiciaire et on a des décès avec des stéroïdes anabolisants. Hein. C'est
je veux dire.
En tout cas, c'était très clair et vous avez raison de condamner fermement, en tout cas de le dire sur RMC ce matin dans les grandes gueules du sport et de nous avoir consacré comme ça un peu plus d'une heure. Merci beaucoup, Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, d'être venu vous exprimer comme ça dans les grandes gueules du sport et de nous avoir consacré du temps. À très bientôt sur RMC.
Il faut le faire plus souvent, professeur. Vous voyez, là, vous vous exprimez devant tout le monde et je suis sûr que les gens vont comprendre un peu mieux ce qu'est la lutte antidopage.
On espère.
Avec plaisir, n'hésitez pas à m'inviter.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier Rabin. On va poursuivre la discussion avec le professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. On rappelle évidemment que vous avez réussi à innocenter notamment Hugues Azuantec, même si elle a été suspendue un mois par l'AMA. Cette question qui tourne depuis plus d'une heure de cette discussion, est-ce qu'on traque les vrais tricheurs?
Pas forcément. La preuve, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, le dopage s'est concentré sur tout ce qui tourne autour de l'oxygénation. Le PO, les transfusions, pour moi, les vrais dopés sont là-dessus. Ce qui se...
Mais on a quand même fait des progrès même... là-dessus, non? Le PO aujourd'hui est détectable. Mais les transfusions sanguines, ça a l'air plus compliqué, hein, le professeur avant me disait.
C'est détectable, c'est pas si détectable que ça.
D'accord, les microdoses, on n'arrive pas à les détecter.
Ouais, déjà, c'est difficile, les microdoses. Ouais. Dans les urines, ça marche pas très très bien. Dans le sang, ça marche bien, le PO, mais dans les urines, ça marche pas très bien. Donc, c'est pas si détectable que ça, malgré tout.
Moi, j'avais une question pour vous, monsieur Alvarez, et je vais mettre un peu les pieds dans le plat.
Il faut.
Est-ce que, selon vous, un coureur ou un athlète qui va se préparer en altitude, qui garde son sang de côté et qu'il se le réinjecte sans produit extérieur, est-ce que c'est du dopage, oui ou non?
Ah bah, s'il se fait un prélèvement de sang et qu'il se le réinjecte, oui, c'est du dopage. Par contre, s'il va en altitude, moi, je suis en train de défendre des sportifs.
Et les chambres hypoxiques et tout ça.
Absolument. Oui. S'il va en altitude, je veux dire, avant, tous les sportifs partaient faire leur stage à Font-Romeu, hein, et ça choquait personne.
Colette Besson, la première, qui a été champion olympique en 68.
Exactement. Non, mais là, je mets pas un point sur le stage en altitude. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il en va.
Est-ce qu'ils vont là-bas?
Aussi,
oui.
Est-ce qu'ils vont là-bas pour ça? Et est-ce que c'est vraiment, on se réinjecte son propre sang? Pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça de comprendre qu'on puisse punir un garçon qui s'enlève son sang et qui se le réinjecte. C'est très compliqué, hein.
Pour moi, ça, c'est de dopage, hein. C'est de la méthode.
Ah bah, pour moi aussi,
c'est de la méthode de dopage. Donc, à partir du moment où vous faites ça, vous êtes dopé. Par contre, si vous montez en altitude ou en chambre hypoxique pour favoriser de manière endogène la sécrétion de votre PO, il faut bien comprendre que quand vous êtes en altitude, vous êtes en hypoxie. Vous n'avez pas assez d'oxygène. Et donc, l'organisme va réagir en sécrétant de l'EPO endogène pour pouvoir pallier ce manque d'oxygénation. C'est pas du dopage, ça. C'est, dans ce cas-là, la psychologie, c'est du dopage.
La frontière est quand même,
mais ça reste quand même naturel. C'est-à-dire qu'on
stimule y a juste une
naturellement
question,
sa propre sécrétion de PO.
Là, le détail est là, vous pouvez me le confirmer, vous qui en connaissez bien plus que moi sur ce sujet, c'est qu'en fait, sur les effets de l'entraînement d'altitude, il n'est pas aussi long qu'on pourrait l'espérer lorsqu'on fait, par exemple, une course de 3 semaines. C'est-à-dire que quand on rentre d'altitude, au bout de 3 semaines, les effets sont moins là. En revanche, celui qui prend, quand il est à son pic de sécrétion, son sang et qui se le réinjecte tout au long de la course par microdose, là, l'effet dure très longtemps.
Ah oui, mais ça, c'est du dopage, je suis désolé. Voilà.
Vous avez vu comme les coureurs cyclistes sont au fait quand même des
de la recherche et des études. Quand je parle des précurseurs,
il n'y a pas que les coureurs cyclistes. Et je te rappelle qu'il y a un numéro 1 mondial de tennis qui a été pris pour
non,
les coureurs.
Non, mais arrête, c'est de la
transfusion.
C'est pas de la transfusion.
Le tennis, on est contaminé, le vélo, on est dopé. Bien sûr, bien sûr. Continuons.
Jean-Claude Alvarez, quand on a entendu Olivier Rabin, on a senti évidemment que vous n'étiez pas en phase et que vous n'étiez pas d'accord sur toutes les techniques. Pourquoi vous ne travaillez pas avec eux? Et ce ne serait pas plus simple, en fait, de déterminer qui est contaminé,
toutes les bonnes volontés.
Vous voyez,
mais si vous voulez, moi, j'ai aucun
après vous,
problème.
Votre but, c'est quand même d'innocenter les clients, les contaminés, et eux, c'est quand même de prouver qu'ils sont coupables ou non.
Moi, si vous voulez, moi, j'ai rien contre le lama. Ce qui me choque, c'est parfois l'acharnement qu'ils mettent à montrer qu'un contaminé est dopé. Ça, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ouais. Quand on montre scientifiquement que c'est de la contamination, Simona Halep, hein, c'est vraiment un exemple.
Complètement.
18 mois de procédure, 18 mois pour finalement aboutir à une sanction de 9 mois, parce qu'ils ont reconnu que j'avais raison, c'était bien de la contamination. Ils n'ont toujours pas accepté la contamination, toujours pas.
Mais pour eux, la contamination, si on écoute bien, ça veut dire, oui, mais vous avez été négligent.
Oui, mais attendez, Iga Swiatek, elle a acheté ses comprimés, sa mélatonine en pharmacie. C'est de la négligence, ça?
Oui,
dans ce cas-là, on arrête de tout.
Le terme négligence rentre dans leurs critères de sanction.
Mais oui, pas de faute, pas de négligence. Mais c'est de l'interprétation.
Je rappelle que vous êtes allé racheter justement cette boîte de médicaments Gaziantep et que vous avez retrouvé le même taux qui lui avait été reproché.
Mais ça, je l'ai fait pour Mohamed Oufal, je l'ai fait pour Simona Halep. Simona Halep, 5 boîtes j'ai racheté. J'en ai ouvert 4, j'ai trouvé dans les 4, j'ai envoyé la 5e au laboratoire de l'AMA, ils n'ont pas trouvé. Mais j'y suis pour rien, moi, s'ils ne trouvent pas de
boîte. Vous allez vous ruiner en médicaments,
c'était
professeur.
C'était pas la bonne boîte.
Justement, la question, on parlait tout à l'heure du dopage de mesure et surtout de la différence entre les sportifs riches et les sportifs smicards. Combien ça coûte aujourd'hui à un sportif qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, professeur, j'ai été contaminé, je veux que vous le prouviez. Combien ça va lui coûter?
C'est difficile à répondre parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire que du cheveu? Est-ce qu'on va faire des suppléments? Est-ce qu'on va faire IGA, par exemple? Elle m'a amené tout ce qu'elle prenait comme médicaments, comme ces crèmes de beauté.
C'est un travail de longue haleine.
Mais bien sûr, IGA, ça m'a pris des semaines pour arriver à trouver son comprimé contaminé, qui avait été testé dans un autre laboratoire, qui n'avait pas trouvé. Hein. Donc vous voyez, on va chercher de l'infiniment petit, parce que c'est de la contamination, ça ne fait rien. Ça rend juste les urines positives avec des concentrations très très faibles. Du picogramme.
J'ai l'impression que vous avez esquivé la question quand même.
Combien ça lui a coûté, IGA Swiatek?
Oh, je ne sais plus, je pourrais pas dire comme ça.
Vous savez.
Non, je ne sais plus.
Mais si vous voulez, mais un ordre d'idée.
Est-ce que c'est en dizaines ou en centaines?
Non, en dizaines. Non. C'est les avocats qui coûtent cher, plus que
les médecins.
C'est les avocats qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher que nous. Et vous savez, moi, il y a des fois des sportifs, c'est là leur fédération qui paie la dialyse. Ça arrive.
Moi, j'ai un exemple.
Pour Isaura Tibus, par exemple.
Par exemple, ça peut arriver. Absolument. C'est la fédération qui considère que il faut défendre le sportif qui. Parce qu'ils considèrent que si on est bien sur de la contamination, on n'est pas sur du dopage.
Ok, le mot de la fin, Jérôme.
Non, mais sur le côté argent, on a l'exemple. Moi, j'ai l'exemple concret de Franck Bonamour que je soutiens depuis son affaire. Franck a été obligé d'arrêter sa carrière parce que dans sa défense, il s'est endetté, il n'avait plus les moyens de payer les scientifiques pour prouver son innocence.
Et les avocats.
Il a été finalement la plus grosse des sanctions, c'est que sa carrière est terminée. Alors qu'avec des plus de moyens, je suis, et nous en sommes tous persuadés, et même un laboratoire, mais qui était dépendant financièrement de l'AMA, a arrêté les recherches parce que Franck n'avait plus les moyens d'aller plus loin et il fallait en rajouter encore. Donc c'est bien un signe que lorsqu'on est puissant et riche, c'est quand même plus facile de se défendre.
Je vais vous dire, moi je suis universitaire, donc il m'arrive de faire vraiment des analyses qui me coûtent très cher. Mais je les facture pas au prix que
ça. On s'est rencontré trop tard, monsieur Alvarez.
Je vous aurais emmené
Franck Bonamour et je suis
absolument
sûr que
vous parliez du cas de Nicolas Achillard, judoka français qui lui aussi a été cloué au pilori pour un cas de contamination.
Absolument. On est sur 14 picogrammes par millilitre dans ses urines. C'est le plus faible taux que j'ai jamais vu d'ostarine dans des urines. 14 picos. Il a rien dans ses poils. Il a rien dans ses cheveux. Il a rien dans ses ongles. C'est de la contamination. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de s'acharner contre les sportifs qui sont contaminés et pas dopés.
Voilà. Jean-Claude Alvarez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission
passionnante.
Gueule du sport spécial dopage.
Merci beaucoup.
Évidemment, vous allez pouvoir retrouver tout ça en podcast. Nous, on continue notre programme dans les grandes gueules du sport. Jean-Claude Alvarez, vous êtes maintenant un habitué des grandes gueules du sport. À bientôt.
Absolument. À bientôt.
Voilà pour quand défendre peut-être un autre sportif.
Au prochain. J'en ai en ce moment.
Vous avez en stock. Oh, ouais.
Il y a Christophe Cessieux qui on va vous envoyer pour faire une analyse capillaire, savoir un peu après cette soixantaine comment ça se passe.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h34 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi, évidemment. Ce dossier spécial dopage est déjà à retrouver en podcast. C'était extrêmement intéressant. Toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Julien Beneteau. On va parler de Tadej Pogacar dans quelques instants, mais on nous appelle au Monténégro avec Morgan Mori, car il y a le quart de finale de l'équipe de France de judo au championnat d'Europe face à la Russie. Ça vient de commencer. C'est Morgan, bonjour.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Un gros morceau d'entrée pour les Bleus face à la Russie sur le tapis. Les plus de 90 kilos, les Français ont envoyé un junior, Matteo Akyanamongo, garçon prometteur. Face à lui, il y a Tamerlan Bachaev, médaillé mondial et médaillé olympique. 30 secondes et rien de marqué. Une équipe, on peut dire, mixte dans tous les sens pour les Français avec des jeunes. Akyanamongo, Velodi, Elliot Prev, mais aussi des noms. Marie-Ève Gaillet, Alexis Mathieu, 5e en individuel. Et Roman Dico pour les lourds, titré hier en plus de 78 kilos. C'est le premier match, toujours 0-0 entre Akyanamongo et Bachaev en plus de 90 kilos.
Tadej Pogacar boucle aujourd'hui son printemps des classiques avec Liège-Bastogne-Liège, un début de saison exceptionnel, vous le savez, avant de passer à sa préparation sur le Tour de France, vainqueur du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne, des Strade Bianche, deuxième de Paris-Roubaix, de l'Amstel Gold Race, troisième de Milan-San Remo, quasiment que des performances majuscules pour le Slovène. Et pendant ce temps-là, nous avons appris cette semaine que Jonas Vingegaard commençait sa préparation pour le Tour avec comme unique course, ce sera le Critérium du Dauphiné en juin, course à laquelle d'ailleurs Pogacar va participer. On va retrouver sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, en direct de Liège, Maria Azé. Salut Maria.
Salut Vissé, salut tout le monde.
Mais c'est vrai que c'est un rythme de dingue hein, depuis le début de la saison pour Tadej Pogacar.
Ouais, on l'appelle le nouveau Eddy Merckx, c'est Tadej Pogacar. Forcément, il veut tenir son rang. Il dispute déjà sa 7e classique cette saison. Après Milan-San Remo, tu le disais Vissé, après le Tour des Flandres, ouais. Paris-Roubaix et bien d'autres. Des courses très longues à chaque fois. Encore 252 km à parcourir cet après-midi à Liège. Mais Tadej Pogacar assume son choix.
Avec le calendrier, c'est toujours compliqué. Je n'ai choisi que les plus grosses courses parmi les classiques. Chaque dimanche a été un long et dur effort, mais je me sens encore bien.
Les questions sur sa fatigue se posent, d'autant plus que ses principaux concurrents, eux, sont loin d'avoir le même programme. Remco a repris il y a 10 jours. Van der Poel n'a plus couru depuis Paris-Roubaix. Jonas Vingegaard, tu le disais, JC, ne fera qu'une seule course, le Dauphiné, avant le Tour de France. Mais Mauro Gianetti, le manager de Tadej Pogacar, l'assurait après la victoire de son champion sur la Flèche Wallonne mercredi. Le Slovène est en forme.
Non, il est bien parce qu'on disait, non, il est fatigué. Dimanche, il a quand même fait 50 km, on peut dire seul. Face à Remco, pas face à n'importe qui. Et donc, c'était sûr qu'il avait une très bonne condition.
Liège-Bastogne-Liège est donc la dernière course pour Pogacar avant la pause du mois de mai. Il reprendra sur le Dauphiné avant le Tour. Mais attention quand même à la chute cet après-midi. On se rappelle de sa grosse chute sur Liège-Bastogne-Liège en 2023 qui derrière lui avait coûté un Tour de France.
Merci beaucoup Maria Azé. Cette course est évidemment à suivre toute l'après-midi sur RMC. Notre débat dans les grandes gueules du sport, Tadej Pogacar, le glouton qui a réalisé un début de saison magnifique. Est-ce que vous êtes inquiet pour le suspense du Tour de France, évidemment ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Pas du tout.
Pas du tout. Jérôme Pinault ?
Non plus.
Non plus, très bien. Ils sont confiants pour ce suspense. Julien Beneteau ?
Bah oui.
Et oui, il est inquiet. Évidemment. Sarah Pitkowski ? Oh.
Non, mais un nom ironique.
Donc c'est oui, tu es avec
entre les deux.
Tu es avec le copain Julien évidemment. Bon bah les copains du vélo essayez de réconforter nous rassurer.
C'est pour ça, c'est parce que vous êtes connaisseurs, vous espérez tellement que vous en perdez votre productivité.
C'est-à-dire que au début de la saison des classiques, vous étiez inquiet, vous pensiez aussi que Pogacar allait tout gagner, qu'il allait gagner le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race. Ouais. Bah il en a gagné que trois finalement. Et il y a eu du suspense. sur toutes les courses. Rappelle-toi du Tour des Flandres, ça a été extraordinaire. Paris-Roubaix, s'il va pas tout droit, là aussi le suspense était quasiment jusqu'au bout. L'Amstel, regardez ce final incroyable. Cet après-midi, ça risque d'être la même chose. Donc,
Mais la question, c'est le Tour de France.
C'est l'élection d'un jour.
Alors, qui a gagné le Tour de France 2023, Sarah?
Non, mais Vingegaard.
Qui a gagné le Tour de France 2022?
Ouais.
Face à qui?
Face à Pogacar.
Bon, ok. Eh ben alors, l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, Pogacar a survolé, survolé les débats. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de mai?
Pas
là,
du tout la même chose. Époque,
au mois d'avril, Vingegaard a failli mourir. Il a failli mourir. Oui, oui. Il était cassé de partout. Il a fait un Tour de France, il n'aurait pas dû le faire. Normalement, si tout est humain normalement constitué, n'aurait pas dû s'aligner au départ du Tour. Pour te dire que l'année dernière, il est arrivé et il a terminé deuxième du Tour. Cette
pour
année,
il n'y a pas eu de
gamelle.
Il se prépare. Il est sur son vélo. Il a fait Paris-Nice. Mais il est
bien sûr qu'il est sur son vélo. Il est sur le volcan là-haut. Il est en train de refaire tous les niveaux. T'inquiète pour lui. Le seul truc, c'est que. Alors, t'as pas besoin de référence. Aujourd'hui, il y a des mecs qui
donc
gagnent le tour.
Tu penses que Vingegaard là est le
principal adversaire
numéro un,
évidemment. Évidemment,
pas devant.
Évidemment,
ça c'est sûr.
Évidemment, qu'il est son
principal adversaire. Savoir,
après, on espère qu'il y en aura un troisième qui est.
Il y en aura un troisième.
Evenepoel. Et franchement, Jérôme, son retour est quand même vachement intéressant. Il est en dessous de Pogacar. Mais je te dis que Vingegaard sera performant.
Alors, non, mais Vingegaard, qu'il soit le principal.
Il en faut deux, hein.
Oui, bien sûr, t'as raison. Mais, honnêtement, il a tout, Pogacar.
Mais il a tellement d'avance.
Il est tellement plus fort. Il bat chaque spécialiste.
Mais on disait ça en 2023, Julien.
Mais oui.
Et regarde ce qu'il lui a mis dans le contre-la-montre, cet incroyable contre-la-montre entre Passy et.
Oui, mais pour gagner le Tour de France, c'est une histoire d'équipe aussi. Alors, on est bien d'accord. Quel est parmi les adversaires aujourd'hui?
Bismarck était au sommet de son art.
Aujourd'hui, la plus grosse équipe, c'est celle de Pogacar. On gagne pas le Tour de France tout seul.
Pour l'instant, Sarah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas vu l'ultra domination de l'équipe de Pogacar autour de Pogacar. Certes, son équipe gagne beaucoup de courses, mais pour l'instant, son équipe ne domine pas quand ils sont avec lui. Il s'est vite retrouvé tout seul. T'as des Pogacar sur les classiques.
Mais si tu compares,
c'est sûr.
Et si tu compares la
Jumbo Visma. Actuellement, Vingegaard est en stage dans les Alpes, à Annecy. Précisément, il fait des reconnaissances. Il a une méthode qu'il applique chaque année, même si l'année dernière il a été blessé, c'est-à-dire qu'il court très peu. Rendez-vous compte, Tadej Pogacar va arriver au départ du Tour de France avec 13 plus aujourd'hui 14e jour de course, 6 jours, ça fait 20 jours. Vingegaard aura à peine 10 jours de course. Mais les méthodes de Vingegaard, on les connaît. Elles étaient les mêmes à une époque qu'on aimerait oublier dans le vélo. On court peu, on se prépare, on arrive, on est prêt. Vingegaard, il va être prêt. Donc il va y avoir suspense. Il va y avoir suspense entre Vingegaard, qui a peu couru, mais qui s'est énormément préparé, en altitude notamment. Comment? Ça, je ne saurais vous dire. Tadej Pogacar, qui aime son sport, qui veut tout gagner, qui veut rentrer dans l'histoire, qui veut rentrer dans la légende, aux côtés des grands Eddy Merckx. Donc lui, il court, il gagne, il fait le spectacle. Et merci, heureusement qu'il est là.
Ouais.
Et le troisième, c'est Remco Evenepoel, qui a été blessé cet hiver, qui va évidemment couper un petit peu après les classiques là, préparer le Tour de France en passant par le Tour de Suisse probablement, et il arrivera très près aussi. Donc il y aura suspense. Moi, je vous demande
juste... S'ils sont tous à 100%, c'est qui le plus fort?
Eh bien, s'ils sont tous à 100% pour le Tour de France, pour moi, le plus fort, c'est Vingegaard.
Ah oui?
Parce qu'il a sa préparation, et comme Christophe l'a dit il y a 2 ans, eh ben il lui a mis une volée à Tadej, parce que Tadej il est fougueux, il aime tout gagner, on va arriver à Lille dès les premières étapes avec quelques côtes, il va vouloir être devant, Vingegaard a cette culture Tour de France, Grand Tour dans cette équipe, on l'a.
Donc alors, ça veut dire un peu que Pogacar à faire toutes ses classiques, il perd un peu le jus.
Non, il les aurait pas faites, c'était pareil. Si
non, il est plus si tête
sur,
brûlée, c'est
sur
ça
un pied d'égalité. Oui, parce que Tadej Pogacar, si tu le fais pas courir, Chris, tu pourras confirmer. Si tu le fais pas courir, Pogacar, c'est un lion en cage, il va bouffer du jus.
Oui, oui. Alors le seul souci, on en parlait hier soir avec Jérôme, c'est que Vingegaard, en ne faisant pas les courses, il va manquer de réflexes. Quand tu frottes pas pendant de longs mois, derrière, comment tu te comportes?
Sachant qu'il a le traumatisme de l'an dernier.
Exactement, le traumatisme de cette chute autour du Pays Basque, et le début de Tour de France va être très tendu pour lui. Il va être protégé, il y aura toute son
escorte autour de lui, mais voilà, c'est un problème.
Il y aura, suspense, on reprendra cette discussion évidemment, parce que le Tour de France sera à suivre sur nos antennes en juillet, avec évidemment Christophe Cessieux, avec Jérôme Pinault et toute la Dream Team de vélo sur RMC, et ce sera évidemment magnifique. Vous nous l'avez promis, il y aura du suspense.
Ben attention, oui, hein, il faut
15
nous
juillet,
écouter
vous le dites, ça y est, c'est mort. Attention, on va vérifier tout ça.
Vous appelez le 15 juillet.
Ouais, je suis bien d'accord.
Vous appelez le 15 juillet.
On se retrouve dans quelques instants pour un on s'en fout pas autour des performances des Français ce week-end, des performances magnifiques, même si tous n'ont pas gagné. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, toujours avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault, Julien Beneteau. Dans une quinzaine de minutes, à partir de midi, les paris RMC autour de cette 31e journée de Ligue 1 palpitante. Et ce match entre Marseille ce soir et Brest, on vous donnera toutes les cotes, mais on va aussi se projeter sur l'événement de la semaine. Et cet Arsenal Paris Saint-Germain, là encore, on vous donnera toutes les cotes.
Oserez-vous ouvrir le coffre RMC Gold ?
C'est le moment de jouer sur RMC. Vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 euros cette semaine sur notre antenne. Et nous allons faire un petit blind test sur la playlist de RMC Gold. Vous le savez, notre nouvelle radio. Est-ce que vous reconnaissez qui chante ? Vous ne dites rien, les GG. Si vous pensez que...
C'est sa génération, voire même la génération de ses enfants.
Si vous pensez au Rita Mitsouko, ok, vous envoyez 1 au 7-32-16. Si vous pensez à Niagara, vous envoyez 2 au 7-32-16. Ok, c'est le moment de jouer cette semaine. 10 000 euros. L'un d'entre vous va gagner 10 000 euros.
On a un
ou un deux.
Indice. Hier, c'était la 1, la réponse. Aujourd'hui, je sais pas.
Voilà, okay. C'est tout. On va s'arrêter là pour l'indice.
Mais vous appelez okay. Muriel.
Rita Mitsouko Niagara, à vous de jouer, chers auditeurs, 1 ou 2, au 7-32-16. Allez, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est le judo avec les championnats d'Europe. Le concours par équipe, notamment, qui se déroule actuellement, ou encore Roman Dico, encore sacré championne d'Europe. On s'en fout, on s'en fout pas. Julien Beneteau.
Je m'en fous.
Sarah Pitkowski.
T'as pas le droit.
Oui. Je suis ravie.
Ok, elle s'en fout aussi.
Non, Christophe. Non, je suis trop. Non, Romain.
Merci, Christophe. Non,
Romain.
Merci.
Oui, on l'adore. Championne.
Jérôme Pinault.
Non, moi je m'en fous pas. Romain Dico, fabuleux.
Alors, on va retrouver tout de suite Morgane Morio Montenegro. En direct, justement.
Merci.
Eh oui, tu peux intervenir, Morgane, dans cette émission. Sinon, tu passais à la trappe, évidemment. C'est du direct. L'équipe de France joue son quart de finale.
Oui, les Français sont menés 2-0 par les Russes. Les meilleures cartouches russes ont dominé les jeunes Français. Tout à l'heure, Bachev, médaillé olympique enroulé, Matteo Akyanamongo pour Ipon, puis Daria Courbon-Mamadova a battu la Française Ophélie Velody sur un mouvement d'épaule. Et maintenant, c'est le jeune grenoblois Elliot Prévé face à Daniil Lavrentiev en moins de 73 kilos. Lavrentiev qui a gagné la compétition en moins de 73 kilos cette semaine. 0-0 entre les deux garçons et on va basculer dans la prolongation. 2-0 pour les Russes, la première équipe à 4 passe en demi-finale. Les meilleures chances françaises, c'est ensuite Gaillet, Alexis Mathieu et Roman Dico. Mais ce serait bien de gagner ce match entre Prévé et Lavrentiev.
Morgane, juste un petit mot. Les Russes, on les a pas vus pendant des années. Ils se sont préparés. Bien préparés, a priori, pendant deux ans. Bien préparés. Alors, je sais pas par quelle méthode. Semaine. On va peut-être envoyer le professeur Alvarez, mais là, on les sent quand même requinqués.
Cette semaine, ils ont été très forts chez les garçons. Bon, ils ont une incroyable école de judo.
Mais ils n'ont pas fait de combat contre les autres nationalités. Enfin, ou très peu.
Ils sont présents depuis plusieurs années sous la bannière fédération internationale. Ils avaient le droit d'aller aux Jeux Olympiques, mais on leur proposait certains noms. Ils ont refusé. Ils disent on a qualifié des athlètes. C'est ces athlètes-là qu'on va envoyer et pas des kidam. Donc c'est pour ça qu'on les a pas vus aux Jeux Olympiques. Mais chez les garçons, ils sont redoutables. Sur les 4 premiers jours, ils avaient fait 4 finales. Et le cinquième jour, ils n'étaient pas en finale parce qu'ils n'avaient pas d'athlète, tout simplement, moins de 90 kilos. Et voilà, une équipe redoutable. Et hier, ils étaient les deux représentants en plus de 100 kilos. Ils ont fait la finale à deux entre Tassoev et Endovitsky. Et là, 3-0 pour les Russes sur ce Kosotogake de Lavrentiev, ce blocage de la jambe à l'intérieur sur Elliot Prévé. 3-0, vous gagnez les trois matchs qui viennent. Marie-Ève Gaillet, Alexis Mathieu et Roman Dico. Et si on fait sur ce sans faute, ces trois matchs, ben on tournera la roue comme aux Jeux Olympiques pour tirer une nouvelle catégorie.
Merci beaucoup Morgane Maury. Et puis on salue évidemment la performance hier encore XXL de Roman Dico. 5 fois championne d'Europe, 5 fois consécutivement.
Elle n'a jamais perdu au championnat d'Europe depuis les cadettes.
Exactement. Maintenant, il va falloir s'attaquer aux mondiaux. Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est la quasi-remontada des filles du rugby. On s'en fout pas. Christophe
Ben non, on s'en fout pas.
Jérôme Pinault.
Ouais, on s'en fout pas.
On s'en fout pas.
Ok, Julien Benito. Ouais,
il s'en fout, mais il veut faire politiquement correct.
Ouais, non.
Menteur.
On en a parlé hier matin, c'est important. Il fallait qu'elles gagnent pour exister.
Exactement. Et elles ont échoué un tout petit point à Twickenham. 43 à 42, ces filles qui malheureusement ont mal débuté la rencontre face aux Anglaises. Les Anglaises qui ont signé une nouvelle victoire dans ce tournoi destination, la 7e de suite, un tout petit point. Mais alors, il y a eu une deuxième période époustouflante avec notamment 5 essais marqués dans les 5 essais encaissés dans les 22 premières minutes et ensuite les Bleus sont revenus magnifiquement, mais malheureusement, je le disais, elles ont échoué à un point comme toujours. Mais je vous propose d'écouter.
Pas comme toujours, d'habitude elles repartent à 20 points quoi.
Ces dernières années ça se rapproche petit à petit.
Là, on se rapproche vraiment.
Je vous propose d'écouter Gabrielle Vernier, joueuse du 15 de France.
Personnellement, c'est beaucoup de frustration, d'agacement. Il y a un temps pour être positif, mais ce sera peut-être après, dans quelques semaines. C'est beaucoup d'agacement sur le fait de perdre un point, alors qu'on les fait craquer dans tous les domaines à la fin. On les transperce un peu partout. Défensivement, elles sont à la rue. Et c'est juste qu'on a eu des gros temps faibles pendant ce match qui nous ont coûté très très cher avec des essais trop faciles pour elles. Et au final, ça nous coûte le match.
Ça nous coûte le match, mais tout de même, on notera la réaction magnifique des Françaises.
Oui, mais c'est ça. Franchement, on a suivi le match hier après-midi avec Léna Hague et Pierre Thévenet, et au bout de 20-25 minutes, moi, je pensais qu'elles allaient repartir avec une valise. Hein. Les Anglaises, un véritable rouleau compresseur, ont enchaîné les essais. Les Françaises réagissaient de temps en temps. Et puis, il y a eu cette deuxième mi-temps. Et c'est vrai que ça donne de l'espoir, parce que ça se passait à Twickenham, dans le temple du rugby. On rappelle que les Anglaises sont professionnelles, les Françaises sont que des semi-pro. Il y avait une énorme différence et peut-être que le fossé est en train de se combler entre les deux rugby et c'est une bonne nouvelle.
Devant près de 60 000 personnes.
C'est vrai qu'un point de plus, ça aurait été magique.
C'est un vrai amour pour le rugby féminin aussi outre-Manche. Quand tu remplis un stade avec quasiment
il n'est pas rempli.
58 000. Mais ce que je veux dire, quand tu remplis un stade jusqu'à 58 000 personnes pour un match de rugby, c'est rugby féminin. C'est quand même extraordinaire. Après, est-ce qu'on ne mesure pas le fait que les Anglaises ont un peu levé le pied, elles menaient de 8 points. Est-ce que sincèrement,
elles ont pris les Françaises un peu de haut à un moment donné.
Mais il va falloir apprendre.
Elles ont une telle marge habituellement.
Il faudra mieux démarrer les matchs.
C'est un exploit considérable aux portes de l'exploit, les Françaises, mais c'était important de le souligner dans cette émission. Une troisième information dans Zapping DG à vous donner, c'est Fabio Quartararo qui va partir en pôle cet après-midi à 14h, ce sera à suivre sur RMC pour le Grand Prix d'Espagne. On s'en fout pas, Christophe Cessier.
Je ne m'en fous pas.
Julien Benneteau.
Je m'en fous pas.
Okay.
Je m'en fous pas non plus.
Okay.
Il revient tellement de loin qu'on s'en fout pas. Non, moi je m'en fous pas non plus.
Bah, on voulait pas te poser la question.
Première pole position depuis 2022 à Fabio Quartararo, qui évidemment, mais c'était il y a très longtemps, a été champion du monde, notre pilote français. Et là, il a donc signé la pole position pour la 5e manche de la saison. À noter qu'hier, il y a eu la course sprint.
Il est tombé, il était en passe, il était leader.
Il a été doublé par Marc Marquez et malheureusement, il a chuté. Donc, il n'y a pas de points pour cette course sprint. Mais évidemment, l'enjeu, c'est à 14h ce Grand Prix d'Espagne. Qui veut commencer? Julien Benneteau.
Ah, ok. Non, je m'en fous pas parce que, comme tu l'as dit, depuis 2022, c'est sa première pole. Donc, ça veut dire que la moto remarche mieux alors que c'est depuis le début de saison et depuis quelques années, les Ducati survolent et cette année, Marquez survole le championnat. Et que Quartararo parte en pôle et peut-être une chance de gagner ou de faire un podium de nouveau et de nouveau être compétitif sur l'ensemble de la saison, ça peut être bien. Et aussi, il y a Zarco qui est bien. Les deux Français cette année sont plutôt bons et performants. Donc ça rajoute de l'intérêt à ce championnat du monde de MotoGP.
Nous serons dans les grandes gueules du sport en direct du Grand Prix de France. Ce sera le dimanche 11 mai, donc dans quelques jours, avec Jérôme Pinault, avec chanceux, Fred Weiss, avec Sarah Pitkowski, avec Christophe Cessieux, le Grand Prix MotoGP. Et on espère évidemment que Fabio Quartararo va cartonner. Denis, tu voulais ajouter quelque chose, Jérôme ?
Non, mais je disais que dans sa réaction d'après Essay, oui, quand il a pris la pole, il explique bien, hein, que sur un Grand Prix et sur la longueur d'un, oui, Grand Prix, face à Marquez et les autres, ça va être très compliqué. Mais ça donne beaucoup d'espoir. Ils règlent cette moto, ils arrivent enfin à être performants, à performer. Et ça donne, oui, beaucoup d'espoir.
Yamaha pour la suite de la saison, bossé. Hein. Yamaha a bien bossé parce qu'ils étaient vraiment très, très loin.
Rappelez-vous l'année dernière
la
au Grand Prix de France, il n'y avait pas que de la confiance dans le team. Donc c'est vraiment très important, ouais.
Sachez, une dernière information à vous donner, on n'aura pas le temps de débattre malheureusement, mais vous avez forcément suivi cette finale de la Coupe du Roi remportée par le FC Barcelone qui a tourné au ridicule hier avec de nombreuses plaintes.
Honte sur le Real.
Dans les comportements.
Des,
ouais,
nombreuses plaintes. Jérémiade, oui, c'est bon.
Oui, Jérémiade. Ouais.
Des madrilènes.
Mais le Rudiger, là, il aurait fallu peut-être faire un contrôle antidopage hier. Il avait des yeux exorbités. Il était déchaîné. Non, mais
Rudiger,
franchement.
Qui a pris un carton rouge parce qu'il a lancé quelque chose sur l'arbitre à la fin du match alors qu'il était sur le banc. Il s'est excusé. Il vient de s'excuser. Ah, c'est pour ça que vous voulez vous en parler.
Et du coup, cette défaite, est-ce que ça précipite pas Ancelotti vers le banc du Brésil?
Du Brésil, ouais. Hein, ah, ben là, s'ils font.
Peut-être, mais en tout cas, le comportement des madrilènes hier, alors qu'ils ont été plutôt favorablement arbitré,
depuis 2-3 jours,
était scandaleux. On en parlait hier dans cette émission.
C'est très bizarre.
Un petit mot, mais on en reparlera dans nos différentes éditions. Merci beaucoup, les GG. Merci Sarah, Christophe, Jérôme,
merci,
et Julien. Merci évidemment à nos intervenants pour cette émission spéciale dopage que vous pouvez retrouver tout de suite. C'était passionnant en podcast. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour les paris RMC autour de Marseille-Brest, évidemment. Ça va être chaud, 31e journée de Ligue 1. Et puis d'Arsenal-PSG, ça c'est mardi soir. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 13h, les paris RMC.